Chers amis, bonjour, bienvenue sur Canal Academy. Le 9 avril 1872, Léon Blum naissait à Paris. Il deviendra l'un des plus célèbres hommes d'État du XXe siècle, mais n'allons pas trop vite en besogne. Ce personnage cultivé s'illustre d'abord comme critique littéraire dans les revues de la Belle Époque. Sa vocation politique viendra sur le tard. Il rejoindra la SFIO, c'est-à-dire la famille socialiste française, au sortir de la Grande Guerre, où il exercera un véritable magistère intellectuel. En 1936, Léon Blum entre dans l'histoire avec le Front populaire. Il poursuit alors sa carrière hors norme. Aujourd'hui, nous allons parler de sa passion pour la lecture et l'écriture. Je suis donc heureuse de recevoir Pascal Horry de l'Académie française. Il est professeur émérite d'histoire à la Sorbonne. Bonjour Pascal Horry.
Bonjour.
Alors, la plupart des gens connaissent Léon Blum comme un homme politique et vous vous dites qu'il s'agit d'abord d'un intellectuel aux yeux de ses contemporains, mais aussi peut-être d'abord à ses propres yeux.
Tout à fait. Dans la grande histoire, il entre en 1936 avec une expérience politique assez remarquable d'ailleurs, qui tourne à la tragédie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se retrouve à Buchenwald quand il revient des camps, enfin de ce camp-là, même s'il n'est pas évidemment un prisonnier comme les autres, il est auréolé d'un prestige considérable, c'est une grande conscience morale et aussi politique pour la nation. Mais en fait, comme vous l'avez très bien souligné, son engagement politique est relativement tardif et surtout son engagement dans la politique, parce qu'il a des convictions qui vont se préciser dans les années 1890. Donc on voit qu'il a 20-30 ans. Son adhésion au Parti socialiste sera symbolique, mais il adhérera dès le début, donc dès les premières années du siècle. Mais par exemple, il ne fait de politique active qu'à 42 ans. Et ce sont les circonstances, puisque c'est tout simplement la plus grande des circonstances, c'est la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, pour la première fois, les socialistes, il y avait eu des socialistes indépendants, mais pour la première fois, les socialistes du Parti socialiste et ses filiaux, comme vous le rappeliez, entrent au gouvernement, puisque c'est un gouvernement d'union sacrée. Donc on fait entrer des familles politiques qui étaient à la marge. Et parmi ces socialistes qui entrent au gouvernement, en charge des travaux publics, Marcel Samba, qui est un mécène sur le plan artistique, enfin une personnalité assez intéressante, et son chef de cabinet, c'est Léon Blum. Et donc 42 ans. Et il ne devient un dirigeant politique qu'après la Première Guerre mondiale, on peut dire au congrès de Tours, 1920, même au lendemain du congrès de Tours, 21. Donc il a en fait une cinquantaine d'années. C'est assez significatif. Avant, qu'est-il ? Il est un jeune homme doué, contestablement. Il entre à l'école normale supérieure. Il faut préciser d'ailleurs...
Il en sort ?
Alors, il en sort en ce sens que on insiste pour qu'il n'y reste pas parce qu'il ne s'investit pas tellement. C'est assez significatif. Je pense que les lettres vont compter pour lui comme forme d'expression. Il se voit, il se rêve certainement écrivain. Avec un E accent aigu majuscule, mais en même temps, il est significatif que ses études, il va les poursuivre encore quelques années dans le droit. Ça annonce l'homme politique, ça annonce la grande conscience morale. Et là, il n'a aucune difficulté, alors qu'il n'a pas tenu à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, à entrer au Conseil d'État, concours extrêmement difficile. Alors j'ajoute un point important sur lequel on reviendra. Il est d'origine juive, il correspond à un itinéraire assez fréquent désormais depuis le début du 19e siècle de juifs qui sont originaires plutôt de l'Est, entre Allemagne et Alsace, qui sont investis dans des activités économiques où ils s'enrichissent progressivement, mais il n'est pas issu, contrairement à ce que ses adversaires ont dit, de la grande bourgeoisie. C'est une petite bourgeoisie commerçante de Paris, hein, du côté du Faubourg Saint-Denis, etc. Bon. Mais en revanche, évidemment, le rejeton, il va faire de bonnes études. Ça, je ne dis pas que c'est obligatoire, mais c'est indispensable, et c'est ce qu'il va faire. Donc, cet homme a, en quelque sorte, respecté le vœu de ses parents, mais quand il veut compléter sa formation, c'est dans le droit. Et se retrouver au Conseil d'État, ça va en faire à partir des années 1890 et jusqu'à la guerre de 1914, puisque en effet, ça s'arrête de fait en 1914 pour lui, c'est travailler sur une réflexion éthique qui va colorer évidemment ses engagements politiques. Quant à l'homme de lettres, il est assez précoce et il participe effectivement, à cette extraordinaire aventure qui est celle de la Revue Blanche.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette revue sur laquelle, d'ailleurs, vous-même avez travaillé sur une anthologie ?
Oui, avec Olivier Barraud, nous avons, il y a déjà quelques années, mais ça a été fort heureusement réédité déjà deux fois, nous avons composé une sorte de sommaire idéal de la Revue Blanche, parce que c'est impressionnant. Quand il s'agit d'ouvrir dans cette revue une chronique sur la musique, on demande à Claude Debussy. Vous avez un certain Marcel Proust qui passe par là. Vous avez Alfred Jarry aussi, étonnant que ça puisse paraître, qui termine sa vie à la Revue Blanche. Vous avez les débuts de Charles Péguy, de Julien Binda. Enfin, c'est assez extraordinaire. On ferait plus facilement la liste de ceux qui ne sont pas passés par la Revue Blanche, qui ont laissé un nom. C'est une revue d'avant-garde, ce qui veut dire à l'époque, pour des littéraires, une revue qui aime Mallarmé, le symbolisme, etc. Et elle deviendra peu à peu une revue politique aussi. Ça sera la grande revue Dreyfusarde. C'est d'autant plus étonnant que s'il y a bien un écrivain que ne peuvent pas aimer ces jeunes gens, c'est Émile Zola. Émile Zola, c'est vraiment le naturalisme. Leur modèle, c'est Maurice Barrès. Et le premier texte de Léon Blum est dédié à Maurice Barrès, à Monsieur Maurice Barrès, député de Nancy. Barrès, à cette époque-là, c'est vraiment le prince de la jeunesse. Et jusqu'à l'affaire Dreyfus, les deux hommes seront proches. Et dans un très beau texte qui s'appelle « Souvenirs sur l'affaire », l'affaire Dreyfus, Léon Blum expliquera qu'il était persuadé qu'il pourrait obtenir le ralliement de Barrès à Dreyfus. C'est extraordinaire. Et avec cette très belle formule qui est très blumienne, parlant de Barrès, nous avions tellement senti comme lui que nous ne pouvions pas penser qu'on ne penserait pas comme lui. Évidemment, il continue à sentir. Il se réclame encore de Barrès après la rupture, enfin après l'affaire Dreyfus. Ce sont des gens qui ont eu des rapports dignes. Mais évidemment, ce sont des adversaires politiques désormais. Et la Revue Blanche devient une revue politique. En attendant, Léon Blum, il publie son premier texte politique, effectivement dédié à Maurice Barrès. Et il va devenir peu à peu, pour la Revue Blanche, mais surtout pour des périodiques, soit disons assez chic, comme le Gil Blas, soit finalement, jusque dans les années 1910-1914, assez populaire comme Le Matin, il va devenir le grand critique théâtral de sa génération. Ça, c'est tout à fait impressionnant.
Et ce n'est pas anecdotique, parce que le théâtre, à cette époque, est un art extrêmement important et populaire.
Tout à fait. D'ailleurs, il suffit de lire ou relire le journal de Jules Renard pour voir à quel point Jules Renard est parfois un peu jaloux, par exemple, de son ami Alfred Capus, qui est auteur de théâtre, mais j'irais aujourd'hui, ce serait un showrunner de séries télévisées. Vous voyez, pour gagner vraiment beaucoup d'argent, ce n'est pas des romans qu'il faut écrire à l'époque, ce sont des pièces de théâtre. Donc jamais le théâtre n'a eu autant d'importance sociale, à mon avis, qu'à cette époque-là, avant l'arrivée du cinématographe, etc. Et bien, Léon Blum est tous les soirs, pratiquement, pendant une 10-15 d'années, et tous les soirs au théâtre, il prend des notes et il publie des critiques. Il serait mort en 1914, il n'aurait pas laissé un grand souvenir, mais on dirait Léon Blum, critique théâtrale. Voilà.
Quels étaient ses goûts en la matière ?
Alors, on ne peut pas dire qu'il soit absolument avant-gardiste, mais en même temps, il a accompagné quand même toutes les nouveautés, en particulier la vogue du théâtre nordique, diffusée par un personnage comme Lugnepo. Il a même été figurant, au moins une fois, dans une pièce de Ibsen. Donc c'est quelqu'un qui est au courant de ce qui se passe, et il sera d'ailleurs l'exécuteur testamentaire d'un confrère de l'Académie, Georges Portoriche, qui était auteur de théâtre. Donc c'est un homme qui est complètement intégré à la vie culturelle française, qui a aussi écrit des essais, insituables au départ, des essais entre philosophie politique et réflexions humanistes, comme les nouvelles conversations de Goethe avec Eckermann. Et puis, le moment où il fait le plus parler de lui jusqu'en 1914, c'est pour Du mariage.
Eh bien, justement, nous allons y venir, parce que vous venez de proposer une nouvelle édition de ce texte paru en 1907 et qui est désormais disponible chez Bouquin, avec une introduction et des notes. Quelle est l'ambition de ce texte et qu'est-ce qui gêne le public ?
Je vous remercie de préciser que c'est une nouvelle édition, en ce sens qu'il n'y avait jusque-là que ce que l'Académie française n'appellerait pas un reprint. C'est-à-dire que l'éditeur, que je ne vais pas citer parce que c'est par ailleurs un grand éditeur, avait les droits du texte et il n'en a, à mon avis, rien fait jusqu'à ce que l'œuvre de Léon Blum tomba dans le domaine public, effectivement, il y a quelques mois maintenant. C'est-à-dire qu'on se contentait de réimprimer le Du mariage, sans aucune préface, sans aucune note les lecteurs d'aujourd'hui ne pouvaient pas comprendre pourquoi ce livre avait marqué les contemporains, en avait scandalisé un certain nombre, à tel point que, pour prendre un cas extrême, enfin c'est quand même significatif, puis on tend l'oreille quand on entend ça, qu'un journal, qui par ailleurs était d'extrême droite antisémite, a dit, à l'occasion de la sortie de ce livre, la pornographie au Conseil d'État. C'est vraiment un livre qui a fait scandale dans certains milieux, un peu prévenu puisque l'auteur était juif et que voilà, on allait l'accabler de tous les maux, mais d'autre part, c'est un livre qui a troublé dans les milieux qui devaient normalement, on verra pourquoi, plutôt se rallier, les milieux socialistes, auxquels se rattachait clairement Blum sans être un militant au quotidien, et les milieux féministes.
Pour quelle raison ?
Eh bien parce que, d'une manière sur laquelle on viendra, qui est très littéraire, il faut savoir, il faut prévenir les auditeurs que c'est un texte qui résonne. Alors si je dis ça, ça accable un peu le pauvre Léon Blum. Mais enfin, c'est assez proustien dans son style. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. C'est-à-dire, on est quand même dans la société de Proust, c'est clair. Alors là, on est tout à fait dans la société de Proust. Proust qui était un contemporain, une relation de Léon Blum, peut-être pas un ami intime, mais en revanche un ami très proche du frère de Léon Blum. Et d'autre part, c'est un style très 1900, dirais-je, avec une phrase ondoyante, des incises, etc. C'est d'une certaine façon daté, mais en même temps, c'est une datation que je trouve quand même très séduisante. Et c'est en fait, je l'ai découvert en travaillant de près ce texte, c'est presque une série de nouvelles. Vous avez des personnages qui sont effectivement des proches, des amis, des relations de Blum, des hommes et des femmes, qui sont mis en scène, hein, avec des dialogues, même comme au théâtre. Mais tout ça pour défendre alors, plusieurs thèses. La thèse fondamentale, qui se retrouve d'ailleurs sur le bandeau de l'ouvrage, c'est que pour Blum, le mariage est une institution qui fonctionne mal. Part de ce principe. Et il s'interroge sur ce mauvais fonctionnement. Bon, il essaye d'abord de prouver qu'elle fonctionne mal, et ensuite, très logiquement, il s'interroge. Et pour simplifier, parce que justement, chez Blum, c'est toujours plus subtil, avec des retours en arrière, etc., il défend une thèse que je vais donc redire, à savoir que l'être humain, quel que soit son sexe, son genre, est polygame, entre guillemets, naturellement, et que la société l'oblige à la monogamie, et il n'est pas du tout contre, mais il considère que ça doit comprendre un certain nombre d'étapes, et surtout, il y a un point sur lequel il est explicite, et c'est ça qui fait parler de pornographie, etc. Il dit que, et on peut considérer que c'est un discours féministe, moi je le défends comme discours féministe, il dit, mais pourquoi autorise-t-on les prétendants de sexe masculin à jeter leur gourme, toutes les pièces de boulevard de l'époque le racontent, y compris Porto Riche, etc. Et pourquoi l'interdit-on aux jeunes filles ? Pourquoi les jeunes filles devraient arriver vierges au mariage ? C'est une question très claire. Il est question de sexualité, hein. Non pas à toutes les pages, c'est pas la question, mais la sexualité est au cœur du discours de Blum. Et pour lui, c'est une injustice. C'est une injustice. Et il y a des passages qui sont des passages qu'on peut qualifier de féministes, même si son problème, ce n'est pas de dire que la femme est une martyre permanente. Non. Mais sur cette question précise, il considère que notre système est fondamentalement injuste. Et il essaye de le démontrer à travers des histoires complexes où les hommes et les femmes, puisque les hommes et les femmes sont mis en scène dans ce texte, se retrouvent dans des situations inextricables parce qu'ils sont en contradiction avec eux-mêmes, etc. Et rien que cette thèse, accompagnant d'autres thèses plus modérées, fait scandale dans beaucoup de milieux.
Alors, Léon Blum va entrer en politique, vous l'avez évoqué tout à l'heure, en 1914. Il va donc diriger le cabinet du ministre des Travaux publics, Marcel Samba. Après la guerre, il deviendra député de Paris en 1919. Et puis, il aura cette entrée peut-être plus fracassante, dirons-nous, en politique avec le Front populaire. Il sera le chef du gouvernement. Mais en parallèle, il continue d'écrire et il écrit notamment pour le journal de la SFIO, Le Populaire. C'est une part très importante de son activité. Vous dites qu'en fait, tous les jours, il produit un article.
Oui, sur une trentaine d'années, il commence en 1921, il meurt au début des années 50, avec l'interruption de la Seconde Guerre mondiale, on l'imagine, il écrit son article du Populaire. Et fondamentalement, quand on voit le statut qu'il a dans ce parti, c'est un statut très étrange, très étrange. Il n'a jamais été président du parti, il n'y avait pas de présidence. Il n'a jamais été secrétaire général du parti en question. Il était quoi ? Il a été pendant quelque temps le secrétaire puis le président du groupe parlementaire. Ça, c'est très intéressant parce que, au fond, il venait de thèses un peu radicales quand même, voire anarchisantes. Et puis, il était arrivé à des conclusions de socialisme réformiste. Et il croit vraiment au régime parlementaire, alors que beaucoup de socialistes sont quand même tentés par, sinon le coup d'État, du moins la subversion de ce régime élitiste, peut-être corrompu, etc. Donc, ce n'est pas du tout sa position. Mais surtout, il est directeur politique du populaire, en effet, dès 1921 jusqu'à la guerre, puis de nouveau à la libération. Ce qui veut dire qu'il est, vous aviez prononcé ce mot d'ailleurs, qui est très juste, il est une sorte de conscience morale, il a un magistère. Il a un magistère. Et vous imaginez que c'est à lui qu'on va demander de diriger le gouvernement, alors qu'on aurait pu demander au secrétaire général qui s'appelait Paul Fort, sauf que, entre les deux hommes, la vie, les accords étaient déjà anciens. Paul Fort était l'homme qui tenait l'appareil, mais c'est Léon Blum qui allait vers la société pour développer la propagande du parti. Et donc, ça ne faisait aucun doute que si les socialistes arrivaient devant les radicaux, mais il faut savoir que ça s'est fait à très peu de choses, c'était normalement Daladier qui devait devenir chef du gouvernement en cas de victoire du Front populaire, mais les équilibres internes ont fait que les socialistes, pour la première fois, ont dépassé les radicaux. Et donc, ça, on s'est tourné vers Blum. Et il ne faut pas croire qu'en disant ça, je veux dire que Blum a été surpris parce qu'il avait effectivement réfléchi au programme. Et en particulier, dès les années 1919-20 que vous évoquiez, il est l'un des principaux rédacteurs du nouveau programme socialiste. Et qu'est-ce qu'il y a, entre autres ? Une réflexion d'abord sur le mode de gouvernement, la manière dont les ministères doivent être organisés. Qui va annoncer ses projets de réforme, comme par exemple l'École nationale d'administration, un projet qu'il va relancer quand il est au gouvernement. Et d'autre part, la politique des loisirs, par exemple. Les congés payés figurent déjà dans la réflexion de Léon Blum depuis une dizaine d'années. Et si aujourd'hui, dans le mythe, la mythologie du Front populaire, on parle surtout des congés payés, c'est un peu excessif et en même temps c'est très significatif, mais il faut savoir qu'on le doit exclusivement à Léon Blum parce que les congés payés, la politique de loisirs, ne figuraient pas dans le programme du Front populaire. C'est vraiment la touche de Blum.
Est-ce qu'on peut dire que, d'une certaine façon, il aurait forgé l'idéologie du parti dans ces années-là ou est-ce que c'est abusif ?
Disons que c'est un théoricien, il a des théories sur la distinction subtile entre l'exercice du pouvoir, ce qui va être le cas en 1936, l'occupation du pouvoir qui consiste à dire soyons plutôt au pouvoir que nos adversaires qu'on appellera fascistes dans les années 30, ou la conquête du pouvoir, ça c'est Lénine. Bon, la conquête du pouvoir est conçue. Bon, voilà.
Question importante dans ces années-là.
Tout à fait.
Le rapport aux communistes. Voilà.
Et du coup, c'est quand même clairement un socialiste réformiste. Mais. Il l'est plutôt au fil de ses articles. Il ne va jamais théoriser complètement. Après l'épreuve de Buchenwald et de la guerre, il va sortir un petit livre qui s'appelle « À l'échelle humaine », qui est intéressant, où on voit bien qu'il s'est encore un peu plus éloigné du marxisme. Il avait des teintes marxistes, sans être un grand marxiste au départ, après une phase anarchiste. Mais il s'en est éloigné. Et après la Seconde Guerre mondiale, on peut dire qu'il se situerait presque au centre-gauche. En tous les cas, il met en avant la démocratie sociale. Et puis sa grande préoccupation après la Seconde Guerre mondiale, c'est la paix universelle. Et il a senti, comme tous ses contemporains, le boulet passer très près. Il faut savoir que si nous avons aujourd'hui l'Union européenne, c'est parce qu'il y a eu la Seconde Guerre mondiale. C'est qu'une sorte d'avant-garde à travers plusieurs pays d'Europe a considéré qu'une forme d'internationalisme, qui n'était pas l'internationalisme communiste ou même socialiste à l'ancienne, mais qui serait l'internationalisme, en fait, européen, fédéraliste, etc., au sérieux. Et ça, Blum participe de ce mouvement à la fin. Bon, grosso modo, c'est un socialiste réformiste et la notion de démocratie sociale finit par subsumer un petit peu tout ça dans les années 50, enfin 40-50.
Donc sa pensée mûrit véritablement avec le temps, on le comprend. Quelle est l'audience de ses articles ?
Le Parti socialiste ne cesse de progresser dans l'entre-deux-guerres. Il part d'assez bas, puisque au congrès de Tours, ceux qui choisissent l'international communiste sont nettement majoritaires. Lui, c'est le minoritaire, avec sa fameuse phrase « il faut bien que quelqu'un reste pour garder la vieille maison ». Et le discours au congrès de Tours est assez impressionnant, parce que quand on le relit aujourd'hui, j'allais dire, il annonce la suite, à savoir que faire le choix d'un système autoritaire pour des socialistes, c'est extrêmement dangereux. Et je me permettrai de dire que c'est toute l'histoire du communisme l'a confirmé. J'irai jusqu'à extrapoler la situation aujourd'hui en Russie. Il ne faut pas oublier que M. Poutine a d'abord été formé dans l'ambiance soviétique. Bref, toujours est-il qu'il a dès Tours, dès 1920, annoncé la catastrophe, j'allais dire, bolchevique. Après, il faut construire des solutions alternatives. Et le Front populaire a quand même eu, par exemple, ce coup de génie qui est vraiment lié à Blum, ce sont les accords Matignon. Parce qu'on répète toujours, oui, il y a les fameux accords Matignon. Mais quel est le mot le plus important ? C'est Matignon. Ça veut dire qu'il y a une grève du secteur privé. En 1936, ce n'est pas le secteur public, c'est aussi étonnant que ça puisse paraître, qui est en grève. C'est uniquement le secteur privé. Qu'est-ce que le gouvernement, dans un système qui serait intégralement libéral, a à dire là-dessus ? Eh bien non, il invite à l'hôtel Matignon, qui depuis un an est le siège du gouvernement, il invite, donc Blum, les partenaires sociaux, comme on les appellera plus tôt, à négocier sous son regard. Mais c'est complètement, j'allais dire, c'est révolutionnaire. En tous les cas, c'est un réformisme tout à fait radical. Beaucoup de syndicalistes considèrent que c'est réformiste, trop réformiste, et le patronat considère que c'est excessivement socialiste. Et ça, ça enclenche une logique qui fonctionne aujourd'hui, de toutes les façons, que ce soit des gouvernements de droite ou de gauche. Cette idée qu'il y a des partenaires sociaux qui doivent tenir compte d'une politique générale, c'était inimaginable avant 1936. Donc, ça laisse des traces. Ça laisse des traces, bien entendu, dans la conscience politique française et au-delà de la France. Hein. Ce qu'on a appelé l'État-providence, qui est d'ailleurs une très mauvaise traduction de welfare state, parce que welfare state, à l'anglaise, c'est l'état de bien-être. Welfare, c'est pas la providence, c'est le bien-être. Eh bien, Blum en participe complètement, bien sûr.
Alors, le Front populaire, vous l'avez dit, ce sont les accords de Matignon, ce sont les congés payés. Et en termes de politique culturelle, qu'est-ce qui est développé par cet homme qui aime lire et qui aime écrire ? C'est un sujet que vous avez creusé.
J'ai tellement creusé que j'ai passé 20 ans à écrire et finalement soutenir une thèse de doctorat au XXe siècle, donc au Moyen-Âge, là-dessus. Et quand j'utilisais le terme de politique culturelle du Front populaire, j'avais quand même des collègues qui me disaient « c'est pas un peu anachronique ?» Bien, non, en fait, ce que j'ai découvert à cette occasion, c'est que la problématique de la culture, le terme culture, tel qu'on l'entend ensuite, ministère de la culture, association culturelle, ce sont des termes qui émergent au moment de 1936. En particulier, au moment de l'installation du gouvernement Blum, il y a un journal de gauche indépendant qui dit « pour un ministère de la culture ». On n'est pas à l'époque de Jack Lang ni d'André Malraux. C'est déjà une problématique qui est là. Alors ça se traduit par des initiatives qui sont généralement relayées par un brillant jeune, c'est le plus jeune ministre de la Troisième République, Jean Zay, qui est ministre de l'Éducation nationale et en fait de ce qu'on appelle les Beaux-Arts. Et quand on fait la liste de tout ce qu'il a initié, les jeunes compagnies sur le plan de la réforme de la Comédie française, effectivement le lien avec les loisirs, ça annonce complètement la 4e, la 5e République. Ça annonce, j'allais dire, Jean Villard, aussi bien qu'André Malraux, Jack Lang. Une bonne partie des initiatives ou des intuitions, parfois des contradictions aussi, hein, et des impasses, des politiques culturelles ultérieures se retrouvent là, déjà. Et ça, il est évident que Léon Blum en participe, parce qu'il fait confiance à Léo Lagrange pour les loisirs, à Jean Zay pour l'Éducation nationale et les Beaux-Arts. Et les réformes qui n'aboutissent pas, par exemple le cinéma, il y a une très ambitieuse réforme du cinéma, elles vont aboutir à la libération. Et d'ailleurs, j'ajouterais que Vichy va même en partie reprendre certaines des réformes, parce que dans ce secteur-là, il y a des incontournables. C'est-à-dire que par-delà de très violentes oppositions, vous avez des gouvernements qui arrivent aux mêmes conclusions, en disant « mais de toute façon, il faut développer, par exemple, une réflexion volontariste en matière de politique du cinéma ». Eh bien, vous avez la version Léon Blum, vous aurez la version Vichy et vous aurez la version de la Libération qui nous a donné le CNC, etc.
Il y a donc une continuité entre le Léon Blum de ces années-là, du Front populaire, et le Léon Blum de l'après-guerre qui sera passé par l'épreuve de la déportation, mais qui va revenir aux affaires assez brièvement puisqu'il va disparaître assez vite.
Oui, il y a continuité. Et la nuance, c'est que par rapport à 1936, où les socialistes étaient majoritaires dans ce qu'on appelait pas l'Union de la gauche, mais qui était le Front populaire, là, les communistes sont dominants. C'est-à-dire que le langage de Léon Blum est peu audible dans une partie de la gauche, qui, je dirais de la gauche radicale, qui considère que le grand vainqueur de la Seconde Guerre mondiale, j'allais dire, c'est Staline. En tous les cas, c'est l'Union soviétique. Hein, c'est Stalingrad. Bon. Et il est clair qu'à ce moment-là, la voix de Léon Blum est une voix cohérente et écoutée, mais par une famille politique qui sera très présente sous la 4e République, mais qui s'affaiblit régulièrement. D'ailleurs, paradoxalement, mais Churchill a connu le même mésaventure, au sein de sa formation politique, c'est le candidat de Léon Blum est battu. C'était Daniel Mayer pour la direction du parti, au profit de Guy Mollet, qui se fait élire sur une ligne de gauche dure. Et moyennant quoi, en 1956, on peut dire qu'il fait une politique de gauche dure au gouvernement. Donc, Blum devient une grande conscience, mais au fond, il est moins écouté qu'il ne l'était en 1936. Hein, ça, c'est tout à fait clair. En revanche, on peut se réclamer de Blum au sein d'une gauche réformiste jusqu'à aujourd'hui. Ça va de soi.
Et alors, il écrit, alors pas vraiment des mémoires, mais une sorte d'embryon de mémoire.
Oui, en particulier en 1935, à l'annonce de la mort du capitaine Dreyfus, des bouffées de souvenirs montent à son esprit et il a un peu de loisir. On est pendant l'été, juste avant qu'il ne franchisse le Rubicon et qu'il ne devienne le grand homme d'État qu'il a été quelques mois plus tard. Il écrit ses souvenirs sur l'affaire Dreyfus, que j'ai eu le plaisir de préfacer naguère chez Gallimard. Et ses souvenirs sur l'affaire, c'est vraiment la partie de ses mémoires dont on dispose en réalité. On regrette qu'il n'ait pas eu l'occasion d'en écrire plus. Et c'est très bloumien, en ce sens que c'est un homme d'une très grande intégrité qui raconte, comme je l'ai dit tout à l'heure, comment lui, il a pensé que Barrès allait les rejoindre. Enfin, il ne cache rien, même de ses contradictions, de ses éventuelles apories. Il fait des portraits du capitaine Dreyfus et des Dreyfusards tout à fait intéressants. C'est un regard d'une grande noblesse. Hein. Alors, il faut quand même insister sur un point, c'est que, étant d'origine juive, étant socialiste, ça pouvait le faire mal voir par une partie de l'opinion, mais quand même, c'est parce qu'il était socialiste juif qu'il a été un des hommes les plus insultés de l'histoire française, hein, en tous les cas au XXe siècle. On est allé jusqu'à appeler à sa mort. Hein. Il y a quand même eu des appels à la mort adressés à Léon Blum, et c'est allé jusqu'au lynchage, puisque un jour de février 1936, quelques mois avant les élections et sa victoire, il s'est retrouvé dans une situation où, s'il n'avait pas été protégé par diverses personnes, il serait peut-être mort. En tous les cas, il a été blessé par des manifestants d'Action française qui, l'ayant reconnu dans une voiture, ont commencé à briser les vitres et à vouloir faire un très mauvais parti. Donc, il faut quand même imaginer l'ampleur de l'exécration que cet homme, qui était plutôt un homme de la modération quand même, et d'une certaine tolérance intellectuelle, même à l'égard de ses adversaires, par exemple Barrès, a fait l'objet. Hein. Et il s'est retrouvé sous Vichy, parmi les accusés, comme Daladier, Paul Reynaud, etc., du procès de Rion. Et c'est lui qui a retourné complètement l'accusation. Ça a été très impressionnant, même pour les partisans de Vichy. Et les Allemands ont compris que ce fameux procès de Rion allait mal tourner, parce que Blum prenait la parole et retournait les accusations contre ses adversaires. Et ce sont les Allemands qui ont fait pression sur le maréchal Pétain pour qu'on arrête les frais, et que ce procès ne se poursuive pas. Effectivement, il ne s'est pas poursuivi, mais quelques mois après, Léon Blum s'est retrouvé à Buchenwald. Alors, précisons qu'il n'était pas dans la partie centrale du camp, mais il était quand même à l'entrée de Buchenwald. C'est un peu comme s'il était à l'entrée de l'enfer, comme Georges Mandel. Et c'était assez significatif. Bon, il n'a pas eu le destin de Georges Mandel, mais ça aurait été tout à fait possible. Jean Zay a été massacré, hein, en 1944. Victor Bach a été massacré en 1944. Donc, dans les dernières années, les derniers mois de Vichy, on est dans une situation de guerre civile. Et fort heureusement pour lui, Léon Blum y a échappé. Mais en effet, un homme de droite, mais patriote comme Mandel, a été assassiné. Jean Zay a été assassiné. C'est quand même absolument tragique. Ce qui éclaire cette histoire, c'est que la troisième épouse de Léon Blum, il a été deux fois veuf, la troisième épouse de Léon Blum, Jeanne, est venue le rejoindre à Buchenwald. Elle a obtenu un laissez-passer de Pierre Laval, qui a signé le laissez-passer pour qu'elle aille à Buchenwald se marier avec Léon Blum. Et Laval aurait dit, en lui remettant le laissez-passer, ça c'est de l'amour. et ils se sont mariés devant un notaire allemand, vous vous rendez compte, hein, Léon Blum et Jeanne. C'est quand même très beau. On se croirait dans un roman, une série télévisée, mais c'est la vérité.
Peut-être que le mariage est une institution qui fonctionne bien dans certains cas. Aujourd'hui, quel est l'héritage laissé par Léon Blum ?
Bon, c'est quand même l'héritage d'un itinéraire, d'une personnalité qui est présente sur le terrain culturel comme sur le terrain politique, qui défend quand même, en particulier au Congrès de Tours, face à l'hypothèse communiste et au moment du Front populaire, une ligne qui serait une ligne, disons, d'équilibre. Alors, bien entendu, là où Léon Blum a rencontré un mur, il s'y attendait, et ça lui a été beaucoup reproché, c'est sur le plan international, puisqu'aujourd'hui, dans l'ambiance actuelle, l'international est très présent. Face à la guerre civile espagnole, bien entendu, son cœur allait aux républicains, mais l'alliance diplomatique centrale qui permettait à la France de ne pas se retrouver isolée en cas de Deuxième Guerre mondiale, et il y en a eu une Deuxième Guerre mondiale, c'était l'alliance anglaise. Et le gouvernement britannique était tout à fait hostile aux républicains espagnols. Et a clairement dit, si vous soutenez, vous, la France, explicitement la République, nous reviendrons sur nos accords. Vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui de l'OTAN. Eh bien, là, il y avait un accord qui supposait qu'en cas de conflit, les Anglais et les Français allaient se retrouver du même côté, ce qui s'est passé en 1939. Mais en 1936, il y avait un grand doute. Et Léon Blum, la mort dans l'âme, a été obligé d'accepter la non-intervention, qui s'est révélée évidemment assez hypocrite dans les deux camps. C'est-à-dire qu'il y a eu une intervention discrète ou pas discrète en faveur des républicains comme en faveur des franquistes. Alors l'éternelle question, mais ce n'est pas vraiment une question d'historien, puisque nous on travaille sur ce qui s'est passé, ce qui est advenu, pas ce qui aurait pu advenir, c'est que certains ont dit « Léon Blum aurait dû démissionner ». Mais alors il est clair qu'une partie des réformes en cours se serait retrouvée gelée. Voilà, donc ça c'est la tragédie quotidienne de l'homme d'État.
Alors finalement, il n'est pas passé à la postérité comme écrivain, ce qui était peut-être son ambition première, mais comme homme politique. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, dans sa vie, il a eu conscience de ce point de bascule ?
Je pense qu'il a eu conscience en 1914, et surtout quand il n'est pas revenu vers l'écriture après, quand il a cessé d'être chef de cabinet de Marcel Samba. Clairement, c'est son parti, le Parti socialiste, qui devait choisir, c'était des questions fondamentales, qui engageaient des millions d'êtres humains à choisir une position à l'égard d'une hypothèse pacifiste qui se renforçait chez les socialistes, dont certains deviendront communistes à partir de 1916-17. Donc les enjeux étaient considérables, et franchement, à côté de ça, des réflexions sur le mariage ou sur Stendhal, hein, ça a été un des premiers à prendre vraiment au sérieux Stendhal. Les amoureux de Stendhal connaissent en général le texte de Léon Blum sur Stendhal et le bellisme. Bah, c'est apparu à tort ou à raison comme un peu fragile face à des enjeux qui étaient la Seconde Guerre mondiale, ensuite la montée de régimes totalitaires de gauche et de droite. Et finalement, c'est l'histoire avec sa grande hache, comme disait Pérec, qui a entraîné le destin. C'est-à-dire, comme souvent, un homme politique important, c'est quelqu'un dont l'itinéraire se transforme en destin. Puisque je parle d'homme politique important, moi, ce qui m'avait frappé en visitant la Boisserie, donc à Colombelles-les-Deux-Églises, c'est qu'on visite la maison d'un écrivain. Donc voilà, il y a quand même des grands hommes d'État, parce que ce ne sont pas seulement des hommes politiques, dont il est intéressant de voir que ce sont aussi des écrivains.
Eh bien, c'est sur ce parallèle entre Charles de Gaulle et Léon Blum que nous finissons, Pascal Horry. Je rappelle donc que nous fêtons les 150 ans de la naissance de Léon Blum le 9 avril 1872 et que vous venez de signer l'introduction du mariage de Léon Blum chez Bouquin. Un grand merci et à bientôt.
Merci à vous.